Voilà, donc dans notre parcours sur le pardon, on aborde aujourd'hui la question de l'impardonnable en fait. Alors c'est ne pas pardonner parce que c'est ainsi que quelques textes bibliques le formulent, mais c'est aussi la question de l'impardonnable parce que c'est quand même une question philosophique qui a connu son apogée depuis que Vladimir Yankelevitch s'est demandé, en quelque sorte, a affirmé qu'il y avait de l'impardonnable dans un livre que je vous présenterai tout à l'heure qui s'appelle L'imprescriptible. Depuis le début de nos rencontres, de temps en temps, il y a une fois ou l'autre un fait d'actualité, une situation qui a pu comme ça émerger en se disant, mais comment on fait pour pardonner dans ces cas-là? Façon élégante de laisser entendre qu'il y a des situations où il n'est pas du tout question pour nous de pardonner. Et voilà, les textes bibliques prennent ça en charge, assument le fait qu'il y a des choses effectivement qui nous semblent impardonnables. Peut-être qu'on pourrait commencer par faire un peu la liste de ce qui, à nos yeux, nous semble assez impardonnable.
Je vais te poser une question préalable. Est-ce que le mot impardonnable existe dans l'Ancien Testament?
C'est ne pas par... Ah, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Donc, de toute façon, ça ne serait pas impardonnable, ce serait le fait de ne pas pardonner. Ouais. Non, c'était plutôt par rapport à la question de la mémoire et du souvenir. C'était le fait de ne pas oublier les fautes. C'était de garder le souvenir de la faute. C'était pas au sens de ne pas pardonner. Alors comme ça, de mémoire, il faudrait que du coup que je vérifie, mais j'ai pas en tête de lieu où il y aurait une demande de ne pas pardonner.
Parce que le mot impardonnable existe dans notre vocabulaire, mais dans le vocabulaire biblique, est-ce que ce mot existe?
Non, c'est la
C'est ne pas
construction,
pardonner.
ouais, c'est ne pas pardonner.
Mais dans pardonnable, il y a le fait que ce soit possible,
Mais même le mot
en
pardonnable,
français.
le mot pardonnable
Ça
n'existe pas
n'existe
en
pas.
fait.
Ah bah ouais. Alors pardonnable, c'est ce qui est possible, ce qu'on peut pardonner. Impardonnable, c'est ce qu'on ne peut pas
Parce qu'en fait,
pardonner.
les textes bibliques ne théorisent pas comme nous on le fait. Donc les catégories de l'impardonnable ou du pardonnable, ça va au-delà de la manière dont les textes bibliques abordent la question, qui est soit de raconter des situations où le pardon est en jeu, soit de faire une sorte d'exhortation sur un comportement, sur une éthique. Et au fond, l'impardonnable, ça ne relève pas de l'éthique, ça relève de la morale.
Du juridique, même.
Et du juridique.
Leur fête, en général, était pour se souvenir de quelque chose.
Oui, mais par exemple, la fête de Yom Kippour, dont on a parlé le jour du grand pardon, c'était quand même pour qu'il y ait un pardon sur tous les méfaits qui avaient été commis. Ce n'est pas simplement une commémoration, c'est aussi opératoire, une sorte.
Alors, je reviens toujours parce que tous les textes qu'on a étudiés sont des textes du Nouveau Testament,
Ouais.
donc qui concernent Jésus.
Ouais.
Est-ce que cet enseignement de Jésus que nous allons décortiquer
Ouais.
est quelque chose de nouveau par rapport à l'esprit de l'Ancien Testament? Est-ce que dans l'Ancien Testament, ces questions-là sont aussi abordées?
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le pardon est quand même une question qui apparaît essentiellement dans le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, ce que l'on voit, c'est que la gestion de la violence est assumée différemment. Pour dire vite, dans l'Ancien Testament, la violence est une manière de gérer la violence. C'est-à-dire que, par exemple, René Girard dit que l'homme qui est un peu assoiffé de sang, Dieu gère ce goût du sang en l'autorisant à consommer des animaux. C'est, selon René Girard, le sens finalement du récit du déluge et de l'arche de Noé. Genèse 9, ça finit par le fait que désormais les hommes pourront consommer de la viande, alors que jusque-là, ils pouvaient consommer simplement du fourrage. Les autres choses, c'est par exemple tout l'aspect juridique autour de la guerre, et notamment ce qu'on appelle le RERM, c'est quand on attaque une ville, on doit tout liquider, hommes, femmes, biens, de façon à ne pas utiliser la guerre comme un moyen de s'enrichir. Donc, c'est-à-dire quand il y a un conflit, il faut que la partie en face soit éradiqué. Il n'est pas question d'en faire un esclave. Ou, voilà. Quand il y a des fautes qui sont commises, grosso modo, c'est lapidation. Même quand les enfants sont assez désobéissants vis-à-vis des parents, premier avertissement, et puis pas de deuxième avertissement, lapidation.
Les enfants.
Il y a des prescriptions comme ça qui sont assez étonnantes, mais qui manifestement n'ont pas été appliquées, mais qui essaient de tracer un peu des frontières. Et justement, le Nouveau Testament, lui, va cesser de réfléchir en termes de frontières et de limites. Parce qu'en fait, l'Ancien Testament raisonne en termes de frontières, au-delà desquelles c'est plus vivable. Hein, c'est grosso modo le lieu de la bestialité. Souvent on parle du désert avec les bêtes sauvages, etc. C'est quelque chose qui vaut comme démarcation entre la terre promise vivable, parce que la loi règne, et puis au-delà de la terre promise, là où il n'y a plus de loi, si ce n'est la loi du plus fort, et donc là c'est pas vivable. Le Nouveau Testament va justement, parce qu'il va y avoir une explosion des frontières et du rapport entre le sacré et le profane, va considérer que tout relève du sacré. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le sacré et le profane, donc il y avait des limites claires. Et l'objet de la prédication de Jésus, c'est justement de repousser ces limites-là, en disant que même la partie bestiale, animale, sauvage, violente, peut être, je veux dire, évangélisée, peut prendre figure humaine. Et le pardon, c'est justement ce qui va permettre de remettre de l'humanité là où il n'y a plus que bestialité, dans les rapports humains.
Étant donné que dans le Nouveau Testament, nous jouissons de la liberté et que la situation politique en Palestine n'était pas stable, puisque c'était comme l'occupation pendant la guerre chez nous, forcément, il y a des choses que l'on pourrait condamner et d'autres pas. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup plus du pardon, parce qu'il y a sur le plan de la vie de chaque jour des possibilités qu'il n'y avait peut-être pas dans l'ancien.
Mais on va voir à quel point ce n'est pas gagné. On verra avec l'évangile de Luc qu'après la prédication de Jésus, il y a une tentative de retour en arrière. On verra ça. C'est assez éclairant par rapport à ta question, François ?
Oui.
Oui, tu vas te contenter de ça. Ouais, je pense. Est-ce qu'on peut faire rapidement une liste de ce qui pour nous est impardonnable ? Cherchez pas des choses qui concerneraient les autres, hein, mais de votre point de vue. On ne cherche pas les bonnes réponses, quoi. De point de vue, qu'est-ce qui est impardonnable ?
La trahison de l'ami cher, ça c'est impardonnable. Mais vu que maintenant je connais Jésus-Christ, alors là c'est pardonnable. Mais ça, c'est impardonnable.
Ouais. Laissons parler les tripes. Laissons parler les tripes.
C'est impardonnable.
L'agression d'un fort sur un faible. La fort, ouais. Le type qui a découpé la gamine en tronçons, là, oui. Je ne sais pas comment on peut leur rendre l'assassin figuré.
Et celui qui a tué toute sa famille.
Mais il est fou, lui.
Oui.
Les agressions d'enfants, oui. C'est ça. Sur les enfants ou sur les vieillards.
Oui.
C'est ça, c'est tout. Hein. C'est celui qui sert de sa force physique qui est agressé, celui qu'on a.
Mais par exemple, celui qui n'est pas spécialement fort en muscles, mais fort en intelligence. Le pervers, en quelque sorte.
Le pervers, oui.
Ça rentre dans cette catégorie-là.
Oui. Le manipulateur.
Ça se pardonne pas non plus.
Ah oh, ben non, c'est ça. Enfin...
La torture, oui.
Si on lit les centurions, on comprendra. Mais il y a un problème. Est-ce que le pardon est vraiment une opération unilatérale ou bilatérale ? Si elle est bilatérale, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un... de l'autre côté qui met fin à des pratiques intolérables, la situation est tout à fait nouvelle. S'il persévère,
là, ça devient impardonnable.
Ben oui, mais c'est peut-être un autre type de non-pardonnable. C'est-à-dire qu'il y a le impardonnable au sens moral du terme. Là, c'est un peu ce que vous dites. C'est-à-dire que, grosso modo, je le dis de façon assez vulgaire, c'est tellement gros que ce n'est pas pardonnable. Et puis, il y a le impardonnable parce que le processus de violence n'étant pas terminé, on ne peut pas, en fait, enclencher le pardon. Parce qu'en fait, il y a encore à pardonner en permanence, voyez. C'est peut-être ça ce que vous êtes en train de dire. Il y a d'un côté l'impardonnable au sens moral, en disant ça c'est un crime tellement exceptionnel que le pardon ne peut pas en venir à bout. Et puis il y a le fait que tant que l'action n'est pas finie, on ne peut pas commencer un processus de pardon.
Je fais un parallèle, moi, entre pardon et tolérance.
Oui.
J'ai souvent entendu exprimer à propos de la tolérance que les limites de la tolérance, c'est ce qui devient intolérable.
Oui.
On peut tolérer, être tolérant jusqu'à ce que il y ait quelque chose d'intolérable. Et est-ce qu'on peut faire le même raisonnement pour le pardon? Est-ce que c'est le même type de... on peut pardonner jusqu'à
d'accord.
ce qu'il y ait quelque chose qui nous semble...
Tolérance, ça implique un processus juridique. Tandis que
un comportement, là,
c'est juridique. Quand on sort du domaine du juridique, on tombe dans le, le domaine personnel. Enfin, c'est différent, non? C'est deux choses différentes.
Oui, c'est deux.
La tolérance n'est pas seulement juridique.
Deux notions.
Il n'est pas puni par la loi.
Non, mais ça peut être aussi le côté insupportable de quelqu'un que l'on tolère pas.
Oui, d'accord. Ouais.
Est-ce que moi, je suis un peu gênée parce que par le fait impardonnable, parce que de toute façon, le pardon, c'est du domaine du don, donc il y a quelque chose qui est gratuit, donc a priori tout, comme c'est gratuit, c'est pas mis en balance. Alors que par contre, si on dit inexcusable ou quelque chose comme ça, là, ça me paraît être là quelque chose qu'on peut pas excuser, c'est quelque chose qui doit être à tout prix puni, réprimé. Et là, il y a dans inexcusable, il y a un prix à payer. Dans pardon, moi, j'ai l'impression que je ne vois pas de choses impardonnables.
Une chose impardonnable, si l'autre accepte d'être pardonné. S'il n'accepte pas d'être pardonné, c'est impardonnable.
Il s'est marié, il va pardonner.
Ça rejoint le côté processus, là. C'est-à-dire que le pardon n'est pas reçu, mais il a quand même été donné. Mais au fond... pour prolonger un peu votre sens, ça va un peu à l'encontre de ce qui était dit juste avant, c'est-à-dire que finalement on pourrait dire le pardon, ça commence à partir du moment où ça devient intolérable. Je veux dire qu'en fait c'est un peu mon point de vue, c'est que tout ce qui est tolérable n'a pas besoin d'être pardonné en quelque sorte. C'est-à-dire que le pardon, au fond, c'est ce que justement Jésus met à notre disposition quand la justice, le droit a épuisé toutes les possibilités. C'est-à-dire que le pardon, c'est ce qui vient après comme un excès. Et effectivement, comme ça relève du don, c'est pas dans la réciprocité. La justice, c'est grosso modo la rétribution. On fait quelque chose de mal, on est puni pour ce que l'on a fait. Le pardon, ça va concerner, en fait, on l'avait vu quelquefois, non plus tout à fait la chose, mais la personne. C'est comment est-ce que cette personne qui a commis un acte peut-être inexcusable est quand même réintégrée dans l'humanité. Ce que j'aime bien avec Derrida ou avec Ricoeur, c'est de dire, au fond, si le pardon n'intervient que seulement lorsqu'il est demandé, en fait, c'est plus vraiment du pardon, c'est de la diplomatie. Ouais. Et d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure avec Yankelevitch, il y a une sorte de commerce qui devient insupportable pour la victime. Et le pardon, justement, c'est quelque chose qui est irrationnel.
C'est l'humilier, c'est surtout l'humilier.
Oui, l'humilier, la victime. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une forme de marchandage du pardon, une économie du pardon qui humilie encore plus. Et c'est ce que justement Yankelevitch va mettre en évidence par rapport à ce qui est envisagé après-guerre, par rapport à la Shoah.
Bon.
Donc, Heureusement qu'on s'arrêtait parce que je pense qu'il y aurait eu de moins en moins de choses pardonnables hein, au bout du compte. Hein. Parce qu'après, effectivement, la tolérance, je veux dire, c'est un très bon critère, mais précisément, la tolérance, il y a un curseur très variable. Et ce que les uns peuvent pardonner, les autres, du coup, ne peuvent plus, oui. Oui. Ouais.
Collectif et pardon, ça peut être aussi quelque chose de très personnel, de très individuel. Est-ce qu'on peut mélanger les deux domaines ?
En fait, là, il y a un vrai conflit. C'est que pour certains, notamment Yankelevitch, il y a un pardon collectif qui doit intervenir. Parce qu'en fait, il n'en veut pas spécialement à des individus, mais il en veut au peuple allemand dans son intégralité. Et puis quelqu'un comme Olivia Bell va dire, de toute façon, il n'y a que les victimes qui peuvent pardonner au bourreau.
Oui.
C'est-à-dire que ce n'est pas les enfants qui peuvent le faire.
Oui.
On ne peut pas pardonner à la place de quelqu'un d'autre. Voilà.
Il y a un livre là, comme ça, qui s'appelle les fleurs du soleil ou quelque chose comme ça, de Simon Wiesenthal.
Oui.
Justement, il a... Où un juif est appelé au chevet d'un Allemand qui a besoin de soulager, qui est mourant et qui a besoin de soulager sa
conscience.
Sa conscience avant de mourir et qui demande pardon des crimes qu'il a commis. Mm-hmm. Et en fait, le juif, il y a un moment, un geste un peu de compassion, je ne sais plus très bien ce que c'est, mais il ne veut pas accorder le pardon au nom de tout le peuple juif.
C'est ça, il n'y a pas d'absolution, en quelque sorte. Et d'ailleurs, ce livre a connu une réédition avec plein d'auteurs, notamment Olivia Bell, Lita Bassé, qui écrivent ce qu'eux auraient fait à la place de ce juif, d'ailleurs. Enfin, il y a toute une réflexion de différents auteurs qui travaillent sur la question d'éthique, et Olivia Bell en particulier. Ça a été aussi la question des aumôniers, des officiers allemands qui étaient traduits devant Nuremberg, en fait. Qui se sont demandé si eux devaient accorder le pardon ou si leur travail d'aumônier consistait en autre chose. Et la plupart des aumôniers, en tout cas protestants, là, dont on a eu le témoignage, le premier travail, c'était en fait de permettre aux uns et aux autres de pouvoir reconnaître les faits. C'était pas eux de pardonner ou quoi que ce soit, parce qu'eux, de toute façon, considéraient qu'ils n'avaient pas à pardonner au nom des victimes, mais c'était de permettre ce travail qui est la prise de conscience, qui permet la repentance éventuellement. Mais dans tous les cas, en fait, ce que beaucoup avaient constaté, c'est que tous ces gens-là étaient incapables d'empathie. C'est-à-dire qu'ils étaient incapables d'imaginer la souffrance de l'autre. Ils étaient incapables de considérer l'autre comme un semblable, en quelque sorte.
Oui, mais c'est pour ça qu'ils ont continué.
Mais c'est aussi, voilà, donc le premier travail, ça a été justement de leur permettre de pouvoir, non pas se mettre à la place de l'autre, ça c'est la sympathie, mais en tous les cas, d'imaginer que l'autre puisse subir, souffrir et être victime. Parce qu'en fait, eux ne se considéraient pas comme bourreaux parce qu'ils ne considéraient pas les autres comme victimes, simplement. Tout simplement. C'est un grand mot. Mais...
C'est un problème d'éducation des enfants, peut-être.
Oui, tout à fait, oui, de sensibilité aussi. Alors, je vous propose qu'on prenne les textes bibliques. Je vous les ai mis sur papier, comme ça, vous pouvez griffonner dessus. Je vous ai mis la traduction œcuménique de la Bible. Comme ça, ça vous permet de comparer avec vos versions personnelles, qui sont souvent des Louis II. Et puis, ça change un peu des formules habituelles. Puisque pardonne-nous nos torts.
Envers toi.
Ouais.
Le mot tort est quand même un mot faible.
Ouais. C'est plutôt la dette. Ouais. Ophélema, ça serait plutôt la dette et elle est souvent liée au péché. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est au pluriel. En fait, l'intéressant dans ce mot, c'est qu'il est au pluriel. Donc vous voyez, ce n'est pas conceptuel. Ça veut dire que ça concerne différentes choses qui ont de la consistance dans leur réel. Oui, c'est tout petit comme remarque. Hein, mais les exégètes de la réforme disaient qu'il faut faire de la grammaire. Le fait que ce soit au pluriel et que ce ne soit pas justement un singulier, ça évite de généraliser. Donc on rentre vraiment dans du vécu, dans du réel. On ne surplombe pas, on est vraiment dans un corps à corps. Et au Philema, c'est pas tant une tare, vous savez, l'idée d'un péché originel, que de difficultés ou de fautes à l'égard de quelqu'un. Donc c'est vraiment concret. Voilà. On a un peu du mal quand on est dans le Notre Père à se dire que c'est concret, parce que c'est une prière qui est tellement rabâchée qu'elle est un peu dépersonnalisée. Mais en fait, avec ce genre de détails, ça nous permet de reprendre pied à l'intérieur. Le verbe, c'est afiemi. Ça reprend deux racines hébraïques possibles. Il y a soit la remise de la dette. Voilà. Donc, grosso modo, on solde. C'est comme si on remettait les compteurs à zéro. Et l'autre, c'est la fameuse expiation. C'est un mot que vous avez certainement déjà entendu. Expier les péchés. L'expiation, c'est ce qui se passe à Yom Kippour. Yom Kippour, c'est la fête des expiations. C'est le moment où on est libéré, en fait, de ce qui jusque-là était une dette. Et vous savez, quand on a une dette, c'est quelque chose qui nous lie, quoi. Il y a une histoire qui est très intéressante. C'est un jour, quelqu'un qui rentre chez lui, il a plusieurs dizaines de milliers d'euros à rembourser à son voisin qui est en face. Il ne trouve plus le sommeil parce que le moment où il doit rembourser la dette approche. Et puis, donc il rentre chez lui, son épouse le voit complètement dépressif, peut-être prêt à envisager le pire pour lui. Et plutôt que de se précipiter vers elle, de le consoler, etc., elle va à la fenêtre, elle ouvre la fenêtre et elle crie vers son voisin: je sais très bien que mon mari te doit 45 000 euros, eh bien ne compte pas sur lui pour te les rendre demain. Et elle lui dit: maintenant c'est lui qui a un problème. Donc expier, c'est ça. C'est en fait soulager de ce qui jusque-là était un fardeau. Bon, évidemment, dans ce verset, ce qui pose problème, c'est le comme nous-mêmes. Nous pardonnons comme à ceux qui nous, enfin, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, etc. Comment comprendre ça? Alors, il y a trois possibilités sur le pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ou pardonne-nous nos torts envers toi comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous.
La condition.
Oui, alors c'est ça.
C'est même antérieur.
Alors, il peut y avoir le puisque. Hein, nous pardonnons puisque. Ouais. Donc, il peut y avoir la condition. Le pardon divin dépend du pardon accordé à autrui. Puisque nous avons pardonné à autrui, bah, toi aussi, tu vas nous pardonner. Donc là, une sorte de chantage. Il peut y avoir... c'est os kai emais. Ensuite, la deuxième option, ça peut être comme nous alors. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose qui est de l'ordre du chronologique. Ceux qui prient promettent de pardonner. Une sorte d'engagement personnel. Et puis, la troisième hypothèse, donc c'est pas le chantage, c'est pas la succession chronologique, c'est sans valeur chronologique, c'est la simultanéité, c'est le comme à égalité. C'est-à-dire que certains commentateurs vont parler de simultanéité eschatologique. C'est que là, vous avez la version vous avez la version de la Tobe. Mais le texte grec, c'est quand même imparfait.
C'est imparfait. Ah bon, donc c'est antérieur.
Donc c'est, ça s'est joué.
Oui,
c'est fait déjà.
Donc comme nous avons parlé.
Ah oui. Nous avions. Enfin, je ne sais pas si c'est de l'imparfait ou nous pardonnions. Enfin, de toute façon, c'est passé. Donc la chronologie, on ne peut pas en faire l'économie.
Non, non, on ne peut pas en faire l'économie. Mais dans cette troisième hypothèse, ce qui se joue, c'est que. C'est qu'on ne met pas l'accent sur la chronologie, on met l'accent sur l'harmonie. C'est-à-dire que c'est la même dynamique qui régit nos comportements humains et nos relations avec Dieu. Mais trois hypothèses qui ne s'excluent pas forcément les unes des autres. Par exemple, moi je trouve intéressant de se dire que l'amour de Dieu peut provoquer notre propre amour envers les autres. Ouais. Quand on est aimé, c'est d'autant plus évident d'aimer. C'était pour vous rendre attentif qu'il y a une polysémie quand même et que la question du pardon, elle est à la fois conditionnée à un autre pardon antérieur, vous savez on en a parlé du pardon originel, mais aussi que être fils du Père, le Père qui est aux cieux là, c'est être dans une attitude qui se conforme à ce que lui fait. C'est pour ça que la communion ou l'harmonie peut être intéressante dans ce texte. Au fond, ceux qui prient à la suite de Jésus sont ceux qui font aussi dans la même perspective que Dieu, en quelque sorte. C'est-à-dire que on conforme notre éthique à l'éthique de Dieu.
Deux choses l'une.
Ouais.
Quand on lit ça, bien on le lit en entendant à l'envers, en disant nous pardonnons comme toi tu nous as pardonné, comme Dieu nous pardonne à nous, ce qui à ce moment-là est quelque chose que
dans lequel on peut
tout à fait comprendre. Ou alors on s'en tient à ce qui est dit et là il y a une impossibilité. Enfin je veux dire. Conditionner le pardon de Dieu à l'aune de ce que nous sommes capables de faire, il y a quelque chose qui est impossible.
Mais si, on va le voir avec le verset 14.
ça va à l'encontre de ce que vous disiez l'autre fois, où vous parliez du pardon originel, c'est-à-dire qu'on peut pardonner à partir du moment où on a été pardonné.
Ouais.
Et là, c'est moi ce que je trouve très gênant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de renversement du modèle, c'est-à-dire que comme si Dieu devait. C'est très étrange.
Oui, mais le verset 14 va être très éclairant. Et le verset 15, qui finalement est assez scandaleux, va aussi prendre un peu de lumière. Parce que le verset 15, c'est le pire. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Vous voyez ? Là, on est dans une sorte de symétrie. Mais c'est qu'en fait, entre les deux, on va faire un petit pas pour essayer d'expliquer la teneur. Voilà, ça c'est carrément l'antithèse en quelque sorte de tout ce qu'on comprend. Ça voudrait dire que l'amour de Dieu est tout à fait conditionné en fait. Il dépend absolument de notre bonne volonté. Donc c'est grosso modo la théologie des œuvres là. Mais non, en fait, je pense que ça dit autre chose.
Le 6, dans le 14 et 15, insiste sur cette condition.
Oui. Oui, mais on va voir. La condition de quoi ? Alors ensuite, le verset 13 n'est pas spécialement lié à la question du pardon, mais c'est un verset avec lequel on a toujours un peu du mal. Eisphéro, c'est le verbe conduire, entre les deux. C'est le même verbe qu'on avait vu il y a quelque temps, quand il y a quatre personnes qui portent un paralytique, ils le font entrer dans la maison. Ils le conduisent jusqu'à Jésus. C'est exactement le même verbe, donc vous voyez, c'est tout à fait neutre. Hein. C'est pas l'impératif. C'est un conjonctif aoriste. Je vous dis ça parce que je l'ai lu. Parce que là, je suis incapable de vous dire que c'est un conjonctif aoriste, sinon. Mais je vous crois. Je vous crois quand c'est super évident, mais bon, voilà. Chacun ses limites. Eisperasmos. Alors, tentation. Perasmos, la tentation, c'est l'épreuve diabolique destinée à perdre celui qu'elle atteint. C'est vraiment pour faire chuter, en fait. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 10, il y a ce petit passage, l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier approche. C'est dans la perspective de, voilà, d'essayer de faire chuter le cosmos. Et là, les disciples demandent à en être épargnés, qu'au lieu de les y conduire, ils les en arrachent. C'est le verbe arracher plus que délivrer même. Et puis après, il y a le ponéros. Alors, ponéros, c'est soit ce qui est mauvais, soit ce qui est défectueux. Mais ça peut être soit ce qui est mauvais, défectueux, soit carrément le mal. Des fois, c'est, on personnalise le diable comme ça, ou l'homme violent ou méchant. C'est-à-dire que là, pour le coup, on théorise un peu. On passe de quelque chose qui est défectueux à une catégorie générale, le défectueux, le mal. Notamment dans l'évangile de Matthieu, hein, les chapitres 5 à 7 sont très riches de tout cela. Bien, alors, les versets 14-15. Les versets 14-15, en fait, ne sont pas dans la plupart des... Enfin, on peut imaginer que ce n'est pas dans la version initiale du Notre Père. Vous voyez, ça... Ouais, ça colle assez mal, en fait. Parce qu'en fait, le 14 se raccroche au 12. Bon. Mais, toujours est-il qu'on a ces deux versets. Et ces deux versets qui, à mon avis, servent de clé de compréhension. Et c'est, à mon avis, un thème qui est extrêmement important chez Matthieu. Et d'ailleurs, on en trouve un peu plus loin un thème semblable. C'est au chapitre 18 de Matthieu. Il y a le serviteur impitoyable et ça finit ainsi. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc il y a le maître irrité qui livre au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et puis la conclusion, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc c'est l'idée selon laquelle il y a quelque chose qui est coordonné. Soit vous pardonnez et vous êtes pardonné, soit vous ne pardonnez pas et vous êtes condamné. Alors, là en principe, vous devez me dire, bah oui, c'est évident, ça correspond à... Oui, ça retombe à une notion de justice, mais pas une notion de justice rétributive, c'est toujours la fameuse justice de la théologie du process. Bon, je vois que c'est toujours pas rentré dans les esprits. Mais... Non, mais ceci dit, c'est sur ce genre de texte qu'on peut fonder effectivement une justice en fonction de la loi. Si vous appliquez la loi, vous aurez ce qu'il faut au bout du compte. Il me semble que les évangiles fonctionnent sur un autre registre, aussi bien Matthieu que Luc d'ailleurs, c'est la mise en perspective, c'est-à-dire que toutes ces histoires ne sont pas là pour nous dire ce qui va se passer dans l'au-delà, sous-entendu après la mort biologique, mais quelles sont les conséquences de tel ou tel comportement. Et au fond, la conséquence là, c'est que si vous ne pardonnez pas, si vous vous êtes fermé au pardon, ben vous êtes fermé au pardon. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas en mesure de pouvoir recevoir vous-même le pardon. C'est-à-dire que si vous n'accordez pas le pardon aux autres, et tout à l'heure vous avez raison de dire que le pardon c'est de l'ordre du don, donc c'est de l'ordre de la gratuité, si vous n'êtes pas dans l'économie de la gratuité, eh bien vous ne pourrez vous-même pas en bénéficier. Donc, vous voyez tout à l'heure quand on parlait de l'impardonnable, on disait il y a des choses qu'on ne veut pas pardonner, puis il y a des choses qui ne peuvent pas être pardonnées parce que le mécanisme n'est pas enclenché. Et bien là, c'est exactement cela. L'évangile de Matthieu, de façon générale, nous dit quels sont les mécanismes qui empêchent l'amour, le pardon, la charité de pouvoir donner toutes leurs mesures. Et si on est soi-même fermé au pardon pour les autres, et bien on est soi-même fermé au pardon pour soi-même.
Et sinon, on a pas conscience
de la faute. Et bien ça, c'est encore un autre problème.
Oui,
alors ça va être dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, oui. La conscience de la faute, mais ça, c'est pour... c'est-à-dire que... je ne sais plus quel est l'auteur qui traitait de cette question. Mais vous savez, il y a des gens qui vivent de façon assez insouciante, en se fichant royalement des autres. Et ils vivent très bien. Ils vivent très bien. Ils vivent très bien, sauf que, sauf qu'ils vivent en deçà de ce que pourrait être leur vie, à vrai dire. Parce que vivre sans les autres ou contre les autres, c'est évidemment se priver de la richesse de l'autre. Alors, ça peut être suffisant pour avoir une vie tout à fait correcte, mais il n'empêche que c'est comme si on était atrophié, c'est comme si on se coupait de certaines racines, c'est comme si on se coupait de certaines branches, plutôt de certaines branches d'ailleurs, parce que c'est dans le présent que les choses se jouent. Plus on a des branches larges, plus on est dans un réseau de relations, plus on récupère la lumière du soleil, on fait la photosynthèse, etc., on s'épanouit, quoi. Vous voyez, il y a une sorte de cercle vertueux. Plus on s'isole, plus on se réduit, et plus notre espace de vie lui-même se réduit, eh bien, on est tout à fait dans cette logique-là du pardon. Et on le verra avec la dernière séance sur pardonner au quotidien. Finalement, il y a une sorte d'hygiène de vie dans le pardon. Parce que sinon, que se passe-t-il ? Eh bien, ça veut dire qu'en permanence, vous retenez la faute des autres. Et en fait, vous n'êtes qu'une ardoise. Et ce n'est pas une ardoise magique qui s'efface au bout d'un certain moment. Vous ne faites qu'empiler les fautes et les défauts des autres. Vous savez, c'est le problème du pessimiste. C'est qu'il ne voit que ce qui ne va pas. Il ne voit que les trains qui arrivent en retard, etc. Et il en est malheureux. Il en crève, en fait.
C'est de l'égoïsme.
Oui, mais c'est un égoïsme qui se retourne contre lui-même. Et au fond, c'est ça que dit la théologie process sur cette forme de justice. Si on ne fait pas ce que Dieu nous propose, eh bien, on se prive de toutes ces nouvelles possibilités qu'il nous offrait.
Ici-bas.
Oui, ici-bas, maintenant.
Ah, oui.
Je parle au présent. Si nous, aujourd'hui, maintenant.
Je pense à quelque chose qui est assez particulier et chose auquel je suis assez mêlée.
Oui.
Le génocide cambodgien.
Oui.
J'ai vécu là-bas plus de 10 ans. J'ai épousé quelqu'un de là-bas, mais rencontré à la faculté de droit à Paris. Et tous les gens que j'ai connus qui étaient étudiants avec nous sont morts. J'ai connu aussi des bourreaux, mais très bien. On était étudiants, on mangeait au restaurant des mines, on se voyait tous les jours. Pol Pot, qui ne s'est jamais appelé Pol Pot, mais sur l'autre ça, je le connais très bien. J'ai assisté à son mariage, je suis même allée goûter les plats chez les Chinois. Mmh. Et c'était un homme très, très ordinaire, très souriant, très paisible, d'une intelligence assez moyenne, mais enfin bon... Maintenant, dans la société cambodgienne, ceux qui restent, ce sont quand même les bourreaux, puisque les victimes, par définition, elles ont dégagé. Bon, donc, dans la société cambodgienne qui se retrouve à Paris, il y a les gens qui avaient assez d'argent pour fuir, ou assez de vision pour fuir, plus les bourreaux. Eh bien, tout le monde mange ensemble, on ne parle de rien. Alors, moi, je dis, est-ce oubli ? C'est sûrement pas pardon. Et on me dit, vous ne savez pas oublier. Non, je ne sais pas oublier. Parce que ce qui s'est passé risque de se reproduire d'une autre façon, mais la corruption est revenue comme avant, et on se retrouve donc avec les opportunistes qui savent faire de l'argent et leur valise au bon moment, plus les bourreaux qui, par définition, vivent plus longtemps que les autres. Et c'est vrai que chaque fois que j'arrive, parce que je suis invitée au mariage, je vais partout, et je dis des choses, et c'est ce que je dis qui, finalement, devient impardonnable. Mmh. C'est-à-dire, je vois les choses comme ça. Cette réalité, elle est comme ça. Je ne la trouve pas supportable. Mmh. Puis il y a des mains que je ne sers pas. Donc maintenant, je m'en vais. Je disparais. Mais il y a quand même des situations qui sont très particulières. Et on n'a pas l'impression que alors, les bouddhistes sont des gens qui pensent que leur vie... va être continué sous une autre forme. Et donc, ils auront oublié, puisque dans leur système, dans une vie, on a des enfants, un mari, tout ce qu'on veut, et puis dans l'autre vie, on peut être un animal, un caillou. Donc, il y a une forme d'oubli. Dans les multiples avatars d'un circuit qui mène au nirvana, il y a des phases d'oubli, puisque après une vie, c'est fini, il n'y a pas de bilan, c'est le blanc. Là, je suis extrêmement troublée, parce que je me dis qu'il n'y a même pas de mots pour dire ces choses, il n'y a pas un discours là-dessus.
Ben peut-être qu'il y a eu un discours, parce que par exemple, si on prend le cas de la France après-guerre, il n'y a pas eu que de l'épuration. Il y a eu aussi des lois d'amnistie. Et puis, il y a eu surtout des mots qui n'ont peut-être pas été entendus par tout le monde, mais qui étaient la construction d'un nouveau mythe national, qui a été de dire que la France était à Londres, par exemple, et puis de finalement faire un peu comme Henri IV l'avait fait, c'est-à-dire une sorte d'amnistie où on cesse de considérer l'autre comme un coupable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut solder aussi. Mais vous voyez, ça relève de l'amnistie, ça ne relève pas du pardon de personne à personne. Mais peut-être que vous êtes finalement peut-être un peu trop à l'extérieur pour être dans quelque chose qui a été un non-dit, quelque chose d'implicite, mais qui est une forme de régulation pour éviter qu'on fasse comme Cain et Abel, quoi, qu'on s'entretue tous. Parce que quand Dieu met un signe sur Cain, c'est pour éviter que la vengeance continue, etc. Et voilà, à un moment donné, il faut essayer de mettre un peu des barrières pour sauver ce qui reste à sauver. Et puis espérer que les bourreaux donnent naissance à des non-bourreaux, en quelque sorte.
Tiens, dans ce qu'on vient de dire, là, il y a deux mots qu'on pourrait rajouter.
Je vais le faire.
Pardon, tolérance, oubli et amnistie.
Ouais. Ça, on l'avait vu dans...
C'est différentes catégories, différents choix qui nous sont laissés. Hein. On peut être appelé au pardon, on peut simplement être tolérant, oublier. Et puis l'amnistie, qu'est-ce que c'est? Comment ça se place dans ces codes, dans ces différentes possibilités? Mm-hmm. C'est un oubli, l'amnistie? C'est quoi? C'est un pardon?
L'essentiel, c'est de renoncer au ressentiment. Parce que c'est
donc, à quoi ça aboutit tout ça?
Ouais. On a vu que l'oubli, en fait, ce n'était pas une valeur biblique. D'un point de vue biblique.
Dans les valeurs bibliques, d'accord. Me place.
Moi, j'essaie de faire valoir un peu fond de commerce, quoi.
Le pardon, au fond, le pardon, est-ce que c'est uniquement une valeur biblique, ou est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de nos codes, de possibilités? Tolérance, oubli, amnistie, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas... la Bible, et auxquelles on peut se référer, et qui sont des façons de mieux vivre, certainement, dans la société. On a quelque chose en plus, ici, c'est le pardon. Mmh. Est-ce que le pardon, c'est uniquement d'essence biblique, religieuse?
Si c'est dedans, ça permet de repartir sur un plan d'égalité entre deux personnes. Je parle entre les personnes, entre deux personnes.
Oui.
L'amnistie, c'est sur le plan de la justice, mais ça permet à...
Et la politique, l'amnistie, elle peut être
sur le plan politique. Oui, c'est ça, justice, politique. Ouais.
De repartir, d'être inclus dans la communauté.
C'est-à-dire que le pardon va toujours avoir une valeur singulière, c'est dans le rapport de personne à personne, là où l'amnistie, c'est pour régler des affaires au niveau de la société, en fait. Pour ce qui est de l'oubli, en fait, on avait vu que ce n'était pas oublier, c'était ne pas se souvenir. Vous allez dire, je finasse. Non, c'était le fait de ne pas remettre en permanence devant les yeux de l'autre sa faute. Ça ne veut pas dire qu'on l'oublie, mais ça veut dire qu'on n'est pas là à réaviver la plaie, en quelque sorte. Puis il ne faut pas oublier à tout prix non plus.
Il faudrait explorer les possibilités
du vocabulaire.
On peut
décider d'oublier.
Mais ça veut pas dire. En général, plus on décide d'oublier, plus on se souvient. c'est-à-dire que il s'agit moins de faire en sorte d'oublier que d'écrire une nouvelle histoire par-dessus, comme une sorte de palimpseste. C'est-à-dire que ça ne gomme pas ce qu'il y a eu avant. On ne fait pas comme si ça n'avait pas eu lieu, contrairement à ce qu'Henri IV laissait entendre. Par contre, on rend possible une nouvelle histoire. Et c'est ça, en fait, l'idée de l'égalité. C'est qu'on peut, à nouveau, être coopérateur.
Ça ne doit pas être le cas de tous les génocides.
Oui.
Mais
oui.
Mais c'est dans l'Ancien Testament qu'on trouve cette phrase là, si tes péchés sont rouges comme le sang, je les ferai devenir blancs comme la neige. Hein. Ça, c'est une opération.
À chaque fois qu'il y a un génocide, il faut ne plus en tenir compte si on veut que le pays ait un nouveau départ. C'est évident.
Oui, sinon, on ne fait que l'entretenir.
Voilà.
Bah, c'est le principe de la vendetta, en fait.
Voilà, alors, c'est le principe de la vendetta. Ouais.
Enfin, le principe de la vendetta, c'est justement d'empêcher la vie, quoi.
Voilà.
Il faut juste qu'on avance un tout petit peu, on passe à Luc. Parce qu'en fait, c'est la transition, justement. Sur la question, ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, on est en plein récit de la crucifixion. Alors, prenez le verset 32, je ne l'ai pas mis, mais j'aurais dû, parce qu'il y a une coquille. Ouais, donc Luc, chapitre 23, verset 32, vous lisez dans votre Bible pour voir s'il y a quelque chose qui vous choque. Voilà, exactement. Luc, chapitre 23, verset 32. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ? C'est un verset que vous avez lu souvent en plus. Hein. Alors, c'est traduit comment ? Oui, mais.
Il y a encore deux malfaiteurs pour être exécutés avec
nous. Oui, en fait.
On conduisait en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus.
Oui. On conduisit deux autres malfaiteurs.
Non, deux.
Mais en fait, vous avez quoi comme traduction ? C'est une Bible Jérusalem ? Voilà, encore. Ouais. Et en fait,
c'est encore que vous trouvez.
C'est qu'en fait, dans le texte grec, mais je l'ai pas mis, c'est une erreur de ma part, parce que c'est ça qui est croustillant. C'est qu'en fait, Jésus mis au nombre des malfaiteurs. En fait, il y a trois malfaiteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Jésus et deux malfaiteurs, c'est qu'en fait, il y a trois malfaiteurs. Ou Jésus est mis au nombre des malfaiteurs. Mais ce qui est tout à fait cohérent par rapport aux prophéties dans l'Ancien Testament, d'ailleurs.
Mais
vous voyez comme quoi.
C'est vrai qu'il y a encore.
Hein ?
Dans le texte grec, il y a encore deux malfaiteurs.
Voilà, c'est pas le terme encore, mais c'est autre, je crois. Deux autres malfaiteurs. Voilà.
Oui, ça revient.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a lui et deux autres malfaiteurs. Voilà. Et vous voyez comme quoi notre traduction, là, a bien lissé les choses pour ne pas mettre Jésus au nombre des malfaiteurs. C'est bizarre, hein ?
Ce ne sont pas les scribes du Moyen-Âge, là, ou
non, là, c'est juste la traduction du XXe siècle. Ouais, tranquille. Bien, alors, on arrive au lieu dit le crâne, Golgotha. Donc, ils sont crucifiés, l'un à droite, l'autre à gauche. On peut imaginer que celui qui est à droite, c'est celui qui va bien parler à Jésus, et celui qui est à gauche, c'est celui qui va plutôt invectiver le Jésus. Bon, toujours c'est.
Non, dextre et sinistre.
Celui qui est à droite.
Non, mais c'est que dans la fin de l'évangile de Matthieu, on a quand même les brebis et les boucs qui sont séparés entre la droite et la gauche avec. Puis Jésus, quand il est élevé au ciel, il était à la droite du Père et pas trop à la gauche, quoi. Donc c'est pour ça que je vous donnais cette hypothèse, mais effectivement, on peut toujours imaginer que Luc renverse la vapeur. On a Jésus qui est entre les deux larrons. Et on a la phrase qui pose le plus de problèmes textuels dans l'évangile selon Luc. C'est le verset 34. Parce que la prière de Jésus implorant son père de pardonner à ses bourreaux n'est pas forcément originelle. Alors voici les documents que nous avons à notre disposition pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Et au fond, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous montre comment le christianisme primitif a réagi par rapport à cet impératif du pardon des bourreaux. On a un vieux témoin, le Sinaiticus, qui le mentionne. Mais on a par ailleurs le papyrus Bonne Mère, qui est aussi un très vieux document, le Vaticanus et le Codex de Bèze, qui ne l'ont pas. Ouais. Il n'y a pas la demande de pardon au bourreau. Ensuite, un peu plus tard, en 170-180, on a des gens comme Tatien, Hégésippe et Irénée qui sont des pères de l'Église, qui l'ont. Donc, il semble qu'à un moment donné, ça manque. Alors, est-ce que ça a été ajouté après ou est-ce que ça a été retiré à un moment donné? Intéressons-nous au vocabulaire et au style, c'est tout à fait du Luc. Donc c'est tout à fait plausible que ce soit bien de lui. Le vocatif pater est attesté par ailleurs chez Luc. Le contenu, l'amour des ennemis, c'est ce qu'on trouve dans le sermon sur la plaine, chapitre 6, verset 28. Et puis que les adversaires de Jésus aient agi par ignorance, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Luc, mais cette fois dans le livre des Actes des Apôtres. Vous savez, les Actes des Apôtres, c'est écrit par Luc aussi. En tout cas, par l'auteur de l'épître à Théophile. C'est chapitre 3, verset 17. Chapitre 3, verset 17. « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. » Donc, il y a cette affaire de l'ignorance qui est un fait avéré. Et puis, un peu plus loin, au chapitre 13, verset 27, cette fois, ce n'est plus Pierre, mais c'est Paul qui parle. « Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qui sont lues à chaque sabbat. Ils les ont accomplies le jugeant sans trouver aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. » Ils accomplirent ainsi tout ce qui est écrit de lui, le descendirent de la croix, le déposèrent dans un tombeau, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et j'avais vu que... Ah oui, ils ont méconnu Jésus. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont agi sans savoir qui il était. Ils n'ont pas fait ça parce que c'était Jésus le Christ, mais ils avaient une connaissance imparfaite de cet homme, sans quoi ils auraient agi autrement. Voilà. Donc c'est pas contre le Christ qu'ils ont fait ça, c'est contre quelqu'un qu'ils ont estimé être un peu farfelu ou je ne sais, mais voilà, une sorte d'ignorance, de méconnaissance. Quand on prend le martyr d'Étienne, c'est toujours dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, verset 60, on a aussi Étienne qui fait quelque chose en faveur des bourreaux, c'est chapitre 7, verset 59 ou 60, selon votre traduction. Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Ça, c'est un bel euphémisme. Oui. Bien. Alors, pourquoi cette parole? Une hypothèse a été de dire « Elle est là pour obtenir les sept paroles de Jésus sur la croix. » Vous savez, il y a ces sept paroles de Jésus qui sont des fois l'objet de prédication. Le 7, c'est un chiffre divin. Et du coup, 7, voilà, il manquait une septième parole et on l'aurait. Il y a une hypothèse que je trouve intéressante, c'est celle de François Beauvon, un exégète assez connu du Nouveau Testament, qui lui fait l'hypothèse d'une élimination de ce verset. C'est-à-dire que primitivement, il y était. C'est ce qu'atteste le Sinaiticus. Il a été supprimé, et selon lui, c'est par antisémitisme. Pourquoi? Mais c'est par logique aussi. Par logique et par antisémitisme. Vous allez voir, la logique, elle est en fait assez intéressante. En 70, chute de Jérusalem. Et les chrétiens voient dans la chute de Jérusalem la destruction du temple, la juste rétribution. C'est que les juifs l'avaient bien mérité. C'est la colère divine qui s'exprime. Ouais, le problème, c'est que si sur la croix, Jésus demande au Père de pardonner aux Juifs pour ce qu'ils ont fait, et qu'ils sont quand même punis, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est que Jésus n'est plus Jésus, soit que Dieu n'est plus Dieu, en quelque sorte. Vous voyez ? Du coup, de façon à rester dans une forme de cohérence, il est possible que cette phrase ait été supprimée pour garder la logique. Peut-être pour éviter qu'une forme de pardon soit donnée à ceux qui ont longtemps été considérés comme le peuple déicide. Bah oui, parce que là, c'est oui, falsifier l'histoire.
C'est une manœuvre politique.
Ça. C'est de la mauvaise foi.
Bah. C'est mal. C'est du poney rose plein tube là. Ouais.
Ça rejoint quelque chose qui me remonte comme ça, peut-être d'un catéchisme mal compris, mais il me semblait avoir lu ou entendu que pour les juifs tout était pardonnable sauf le péché contre le Saint-Esprit.
Ouais, c'est dans l'évangile de Marx.
C'est l'évangile de Marx. Et alors ça, contre l'Esprit, alors ça indiquerait, si tu veux, une limite. Voilà, tout est pardonnable.
Non.
Sauf le péché contre le Saint-Esprit.
C'est exactement la limite de Matthieu, mais dite autrement. Si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne vous pardonnera pas. C'est en fait la même chose. C'est-à-dire que l'Esprit, c'est quoi ? Bah, d'ailleurs, l'Esprit, on va en parler avec Jean. L'Esprit, c'est justement ce qui crée des ouvertures, en fait. C'est-à-dire que l'Esprit, c'est ce qui met en relation. Si on pêche contre l'Esprit, ça veut dire qu'en fait, on se ferme à l'Esprit. On se ferme à la relation. Si on se ferme à la relation, alors du coup, on ne bénéficie plus de ce que l'on serait en droit de recevoir. C'est-à-dire que le péché contre l'Esprit ne sera pas pardonné, parce que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un repli sur soi. C'est-à-dire que finalement, on s'auto-condamne en quelque sorte. On pourrait le dire, on se limite dans ses capacités, mais en fait, c'est faible. C'est que on s'enferme soi-même dans sa propre cellule. Pour le dire autrement, c'est un peu ce que j'avais raconté là, en reprenant Citizen Kane, c'est cet homme qui s'enferme dans sa gloire, dans sa richesse, dans son luxe, dans sa réussite professionnelle, et qui ressort de sa vie, quand il fait le bilan, il se rend compte qu'en fait, il est passé à côté de sa vie. Que sa vie, c'était ses relations amicales, c'était sa camaraderie, c'était peut-être un peu l'insouciance, la liberté de jouer, et pas le rôle social qu'il a tenu, en fait. C'est-à-dire qu'on, voilà, il s'est enfermé dans un rôle, et du coup, il a été privé du bonheur qui le rendait si heureux lorsqu'il était petit. Ben, en fait, le péché contre l'esprit, ça serait un peu ça. Vous voyez, il y a une limite.
Oui, parce que je rentre bien dans ton explication, mais je constate que dans les temps que nous vivons, le péché contre l'esprit, beaucoup de gens ne l'interprètent pas de cette façon. Je ne sais pas, je vais transposer dans la religion chez les musulmans, brûler le Coran, c'est faire le péché suprême contre l'esprit. Je suis pas sûr que chez un certain nombre de chrétiens, évangéliques entre autres, il n'y a pas la même notion.
Ah, oui.
Moi, je connais des musulmans qui vont lire le Coran, ils s'en foutent. Ouais. C'est des libéraux, comme il y en a
partout. Oui, enfin, voilà.
Par des fanatiques, on raisonne dans le libéraux, on est
ouais. Avec un raisonnement libéral. Ouais,
oui.
Mais on peut comprendre que, enfin, on peut comprendre, on constate, hein, on ne le fait pas nous-mêmes, mais que le péché contre l'esprit soit quelque chose dans l'esprit de gens qui soit vraiment une limite intolérable.
Oui, mais ce qui est étonnant. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on puisse revendiquer le péché contre l'esprit comme la limite pour condamner des péchés contre la lettre. Parce que finalement, brûler un Coran, c'est le péché contre l'être et pas contre l'esprit. C'est-à-dire qu'effectivement, en théologie...
Les gens qui disent que la Bible, c'est la parole de Dieu, brûler le Coran,
bien sûr.
Mais
justement, en fait, en théologie libérale, il ne peut pas y avoir de délit de blasphème. Parce que Dieu est toujours au-delà des représentations. Ouais. Donc, quelques représentations qu'on atteigne, ce n'est pas Dieu qu'on atteint. Mais en revanche, qui est manifeste, c'est que on peut quand même condamner l'intention qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est quand même pas très fraternel, pour le dire. Voilà. Il y a quand même de quoi condamner.
C'est la provocation.
C'est pas
inutile.
C'est ça. Ça peut. On sent bien que ça ne peut pas rapprocher les hommes, ce genre de choses. Maintenant. Sur le plan purement théologique, c'est pas du blasphème. Le blasphème est impossible, en fait. En revanche, oui, c'est quand même de la hargne et de la haine.
Ouais, c'est
ouais.
Exprimé de la haine.
Ouais. Et ça, c'est pas... Bon, et alors donc, notre Luc primitif, vous voyez, accorde une forme de sainteté au Christ agonisant. C'est-à-dire que même à la pire heure qui soit, il ne recule pas d'un iota sur son exigence éthique en matière de pardon. C'est-à-dire que ce qu'il prêche, il le fait.
Sinon, c'est pas cohérent.
Oui, c'est ça, c'est la fameuse logique. Ouais, c'est-à-dire qu'après, la question, est-ce qu'il ne faudrait pas enlever ce verset pour rester cohérent par rapport à la chute du temple de Jérusalem ? Oui.
Est-ce que si ils avaient été conscients, s'ils sont conscients de ce qu'ils font,
on cesse de les pardonner.
Sont moins pardonnables.
Oui, c'est sûr. Bah, en principe, oui.
Bah. Oui.
Quand l'intention s'ajoute à l'acte,
c'est un peu. C'est pas moi, c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès.
Oui, c'est ça, je voulais pas. Mais justement, je fais juste le lien et puis après je reviens à votre question. Mais en fait, Yankelevitch reprend cet épisode-là. Il dit, donc parlant de la Shoah, il dit, donc elle répond à une intention exterminatrice délibérément et longuement mûrie. Elle est l'application d'une théorie dogmatique qui existe encore et qui s'appelle l'antisémitisme. Aussi dirions-nous volontiers, en renversant les termes de la prière que Jésus adresse à Dieu dans l'Évangile selon Luc, « Seigneur, ne leur pardonnez pas, car ils savent ce qu'ils font ». C'est à partir de ça que Yankelevitch articule son argumentation sur l'impardonnable. C'est-à-dire que ce verset, il faut le lire en écho avec le reste de l'Évangile, qui ne limite pas le pardon à l'inconscience ou l'irresponsabilité. C'est-à-dire que le pardon des ennemis, l'amour des ennemis, le pardon, ben justement, en fait, il ne connaît pas de limite chez Luc.
Oui, c'est ça, moi, c'est ça. Et là, on a l'impression que c'est un peu comme Socrate, là, nul n'est méchant volontairement, en fait, ils sont pas vrais. Et moi, ça me gêne un peu, parce que je trouve que ça fait c'est un pardon moins grand, quoi.
Mais
limité, quoi.
Ouais, mais en fait, moi, ce car ils ne savent pas ce qu'ils font, je comprends, bon, il y a un caractère limitatif, mais qui n'est pas limité à cette situation-là. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est ça, en fait, la question du péché. C'est ce que dit Paul par ailleurs, comme d'habitude. C'est-à-dire que les hommes ne savent jamais ce qu'ils font, en fait. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, ça rejoint un peu votre argument, c'est pas moi, c'est ma main, etc. Bon. Mais c'est que pour une part, les évangiles disent à quel point les hommes sont irresponsables en permanence. Et c'est la raison pour laquelle ils sont pardonnés par grâce seule. C'est qu'en fait, l'autre biais, c'est avec Paul et la loi. C'est qu'en fait, la loi, elle ne peut que nous accuser, parce qu'on n'est jamais à la hauteur. Et la loi, elle peut être intéressante, disait Luther, elle a un côté pédagogique, parce qu'elle nous montre à quel point on n'est jamais là où il faudrait, et à quel point on est toujours en deçà de ce qu'il faudrait. Et Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est vrai que dans une certaine mesure, c'est pour les dédouaner. Mais est-ce qu'ils auraient pu savoir ce qu'il faisait. Si on reprend toute l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, peu savaient ce qu'il faisait, en fait. Je veux dire, même du côté de la résistance, personne n'avait l'alpha et l'oméga, en fait. Je veux dire, même Jan Kerski, qui a visité le ghetto de Varsovie, etc., il avait un bout de ce qu'était la guerre mondiale, en ignorant tout ce qui se passait dans le Pacifique, etc. Il me semble qu'en fait, là, c'est plutôt anthropologique. C'est une façon de dire à quel point l'homme, c'est ce bois courbe. C'est-à-dire que en permanence, il faut essayer de le ressusciter, de le redresser, mais que ouais, il est pécheur en ce sens qu'il est encore à accomplir. Pardonne-leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, justement pour qu'ils progressent encore un peu. Ça serait trop bête d'arrêter l'histoire maintenant, en fait. il y a quelque chose de cet ordre-là dans le pardon, en fait. C'est de permettre, non pas de tourner la page pour oublier ce qu'il y avait avant, mais c'est pour pouvoir continuer à écrire. C'est pour aller au-delà de la marge, en quelque sorte. Et ce père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, du coup, ça peut s'appliquer à toute autre situation, je pense.
Comment on met ça au bout d'enfant ?
À la limite, il n'y a que Dieu qui a une vision suffisamment large, oui,
totale.
Ouais. Pour comprendre.
Ouais. Mais quand on parle de celui qui était, qui vient, qui est l'alpha et l'oméga, c'est ça, en fait. En fait, c'est juste une autre façon de dire le récit de la Genèse avec Adam et Ève. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? C'est parce que cette connaissance, elle n'existe pas, en fait. C'est que quand ils vont à l'arbre et qu'ils goûtent, mais qu'est-ce qu'ils savent ? Ils savent qu'ils sont nus. Ce qui est un peu nul comme savoir. Mais moi, je le comprends comme le fait que précisément cette science-là, elle est inaccessible. C'est une illusion. C'est pour ça que, en fait, c'est une illusion qui peut coûter cher. Parce qu'on peut avoir l'impression d'être à la source de la connaissance et que ce que l'on sait, c'est l'absoluité. Et ça, ça a conduit à la tyrannie, à la dictature, si vous voulez. Soit c'est une quête effrénée. C'est-à-dire qu'on pense que ça existe, on pense qu'on va la trouver, comme on peut trouver l'eau de l'éternelle jeunesse, etc. Du coup, on passe notre temps à faire autre chose que ce qu'on devrait. On poursuit une chimère, en fait. Et ce mythe de la Genèse, à mon avis, ça nous prémunit contre soit la tyrannie, soit une quête illusoire. Et je trouve que la chute de l'histoire, c'est pas la chute en termes de péché, c'est ils virent qu'ils étaient nus, quoi. C'est nul. Mais c'est complètement vrai. On est complètement dépouillé. L'homme, le petit homme, c'est le plus fragile de tous les animaux. Je parle sous contrôle, hein, mais on laisse un petit homme comme ça tranquille, il meurt, hein, c'est sûr.
C'est
pas
sa spécialité, c'est les poissons.
Ouais, mais.
Bon. Comment voilà. On applique cette histoire de pardon ? Moi, j'entends toujours la cette histoire, là. Le fou, hein, c'est-à-dire qu'il est peut-être qu'il est fou, qu'il découpe la gamine en sang, là.
Irresponsable, là, pour le coup,
est-ce qu'il est dire, il a déjà fait, il a déjà été en prison, il y en a. Comment vous faites, ce type ?
C'est ça qu'il faut peut-être distinguer.
Il a le cerveau fêlé.
Oui.
Alors, on le met en asile psychiatrique, il y est, ça y est. C'est tout.
C'est-à-dire qu'il y a... C'est comment on fait pour préserver la société, et deux, comment on fait pour le soigner.
Voilà.
Mais c'est vrai pour quelqu'un qui n'est pas fêlé. Je veux dire, quelqu'un qui va en prison, on ne peut pas tout à fait considérer que ça va l'arranger. Hein.
Pas du tout.
Ça va peut-être créer un criminel encore pire. Il n'empêche que c'est une bonne réponse dans la mesure où ça préserve la société le temps où il est en prison. Et ce qu'il faut, c'est que ce soit coordonné. Il faut, comme si je savais ce qu'il fallait faire, etc. Je reste calme. Hein. Mais disons que si ce n'est pas coordonné, je ne parle même pas en termes de soins, en termes de soins, mais pas forcément en termes de soins thérapeutiques, etc. Mais comme on prend soin de quelqu'un. Hein, si on ne prend pas soin de cette personne-là, forcément, ça ne va pas s'arranger.
Et peut-être qu'on n'a pas pris soin de lui, c'est pour ça qu'il est comme ça.
Le pardon, dans ce cas-là, on n'exige pas le pardon de la part des parents de l'enfant.
Mais je ne vous dis pas parce que j'en ai parlé là, il y a 3 jours avec en Auvergne, là-bas où je suis, il y a des gens. Je dis, mais la peine de mort.
Oui, non, mais voilà.
Le grand public, c'est la peine de mort. C'est,
c'est ça, c'est pour la protection de l'humanité.
C'est la peine de mort.
Alors, il n'y a pas de pardon possible.
La peine de mort, alors on leur dit non.
Il n'y a pas de pardon possible. J'ai entendu le témoignage d'une famille dont le fils a été tué et qui le procès l'assassin de son fils avait lieu ces temps-ci.
Et qui disait
oui, nous sommes chrétiens.
C'est la gamine qui a été assassinée dans le RER, là, le père militaire, qui a fait une association.
On va faire autrement.
Mais c'est comment peut-on pardonner
après il faut
se
le faire qui dit
Après, il y a la victime qui a le droit de pardonner.
Elle est morte, oui, affreusement.
Il y a de la victime
non, non, mais après, c'est-à-dire que non, non, mais les parents sont aussi, les parents sont aussi victimes, bien sûr. Mais ils pardonnent pour le crime qui leur a été fait.
Pas à la place.
Non, bien sûr.
Non, c'est la peine de mort.
Oui, c'est sûr. Mais de même qu'il faut se méfier à ces annonces un peu ostentatoires. Puisque je suis chrétien, je pardonne. Il y a une sorte de mécanique qui est un peu plus rapide que la mécanique évangélique, disons. C'est-à-dire que, enfin, c'est vis-à-vis d'eux, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient vigilants à ne pas avoir dit ça trop vite.
Mais, oui. Mais bon, on peut aussi penser à Jean 23, pas Jean 23.
Jean-Paul II qui avait pardonné à son agresseur.
Ah ben là, c'est lui qui était la victime, alors il avait le droit.
Bon, ça c'est une tradition, même Louis XV a dit qu'il pardonnait à celui qui l'avait agressé. Enfin,
non, mais quand il y avait des épidémies sur la
bataille, une référence
on ne
texte.
Laissait pas débarquer les gens. C'était pas pour quarantaine. Punir d'être malade, c'était
pour être contaminé.
Les autres.
C'est une mesure conservatoire.
Incontestablement, oui. Si vous voyez les épidémies qu'il y a eu, les bateaux qui ne pouvaient pas apporter, qui étaient mis en quarantaine.
Ouais. Comme les Lébreux qui sont mis au banc de la société, etc. Oui.
Voilà, et c'était pas qu'on voulait punir ces pauvres gens qui n'avaient rien fait, c'était qu'on voulait prémunir le reste de la société de cette épidémie. Alors en fait, c'est ça aussi, c'est pas
mais
punir pour ce qu'il a fait, c'était pour qu'il faut tout de même préserver les autres.
Ah oui, c'est vrai, il y a ça. On verra peut-être dans la dernière, dans la prochaine fois où il y aura la question de la réconciliation, voilà, comment ça se joue en fait. Parce qu'en fait, c'est plutôt sur le thème du rétablissement du lien ou de la relation ou le fait de pouvoir reprendre sa place parmi les autres que les choses se jouent. Le troisième texte sur Jean, finalement, c'est une pierre de plus. Hein. Peut-être que j'ai pris des textes qui m'arrangeaient, je ne sais pas. Mais,
c'est pas impossible.
C'est pas impossible. Donc, c'est le ressuscité, hein. Là, on en est à Jésus ressuscité dans l'évangile de Jean. Vous voyez, c'est avant, pendant et après la croix. Quand même, j'ai essayé d'alterner un peu. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Donc là, c'est le verbe « remettre », mais c'est le verbe « pardonner hein, », c'est « affirmer » toujours. Donc vous voyez, on est toujours pile dans la même logique. Hein.
Sauf que c'est comme si on avait le choix... Entre un choix qui nous est donné.
On a la liberté, oui.
De le retenir, c'est-à-dire de ne pas le pardonner.
Oui. Ouais. Donc là,
c'est. Un choix entre pardonner, soit pardonner. Et ceux. Et Jean ne dit pas. On ne condamne pas ceux à qui vous les retiendrez, enfin ceux qui retiennent.
C'est votre choix.
Pardon ? C'est votre choix. C'est extrêmement compliqué, cette question du pardon.
Mais à mon avis, Jean. Alors, on peut le comprendre comme ça en disant qu'il nous laisse la liberté. Moi, je pense qu'il nous met plutôt face à nos responsabilités.
Oui.
Je pense que c'est plutôt à comprendre sous l'angle. Sachez que si vous ne pardonnez pas, les personnes ne seront pas pardonnées. C'est-à-dire que il n'y a que vous pour le pardonner. Donc, ça veut dire que le choix que vous allez faire, pensez bien qu'il a une conséquence pour vous, il y en a aussi une pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme d'éthique de la responsabilité qui se dessine ici. C'est pas simplement... bien sûr, ça évoque la liberté qui est laissée à chacun, mais il y a aussi donc le pouvoir de pardonner, qui est quand même un pouvoir assez fort. On a vu à quel point ça avait été contesté par les scribes et les pharisiens quand Jésus avait pardonné, et que ça avait même été un motif de condamnation. Mais qui est-il, celui-ci, pour pardonner même les péchés ? Il se prend pour Dieu. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de se prendre pour Dieu. Mais précisément, c'est ce que les évangiles essaient de nous faire entendre. On rentre dans la dynamique de Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de coordination entre le moment du Notre Père. Hein. Il y a une sorte de communion, ou de communion eschatologique, parce qu'on fait exactement ce que Dieu fait. Ce qui, en fait, est quand même assez inouï. Hein. Enfin, il faut penser que pardonner, c'est... Dans l'islam, ça n'existe pas, par exemple. Il n'y a que Dieu qui pardonne. Hein. Tu comprends ça.
Non, parce que ce verset de Jean, ceux à qui vous les remettrez leur péché, ils seront remis.
ceux à qui vous les retirez, ils ne seront retenus.
Oui.
Ça veut dire que si on ne parle pas, ben Dieu...
Ben voilà, donc il ne donne
pas. Là, on n'intègre pas Dieu, c'est que... C'est que les péchés seront retenus.
Non, vous fermez les portes à ce moment-là. Ferme des portes.
Ouais. Au fond, si on le disait avec les mots de la psychanalyse, c'est que on maintiendrait vive la culpabilité. Et en fait, on laisserait la personne aux prises avec sa culpabilité. Et que la culpabilité, elle n'est évacuée que par autrui. On ne peut pas éjecter nous-mêmes la culpabilité. Ça, c'est un grand thème. On ne peut pas se pardonner à soi-même. Et donc...
Moi, la deuxième partie du verset, moi, elle me choque. Ceux à qui vous les retirerez, ils seront retenus. Parce que
quel pouvoir avez-vous pour les retenir?
Quel pouvoir avons-nous pour les retenir?
Non. Oui, je comprends. J'essaie de la défendre, cette dernière partie. C'est que, au fond, c'est comme une sangsue qui s'accroche à notre peau, la culpabilité. Mais imaginons qu'elle soit, il y a des endroits où on ne peut pas trop s'attraper des choses. S'il n'y a pas quelqu'un qui le fait, elle reste accrochée à nous. C'est-à-dire qu'elle elle reste retenue. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui la retient pour nous, c'est que ça s'accroche à nous. Il faut de l'allothérapie en quelque sorte. Il faut qu'il y ait de l'étranger qui s'occupe de ça pour nous le retirer. C'est un peu comme les dépressions nerveuses. On ne s'en sort jamais vraiment tout seul. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une main tendue à un moment donné. Parce qu'on est dans un cercle vicieux où il y a une sorte d'auto-alimentation, en fait, là-dedans. S'il n'y a pas quelqu'un qui nous dit une parole pour nous libérer, en quelque sorte, c'est comme le condamné qui est dans la cellule, il ne sait pas que la porte est ouverte, en fait. Bon, c'est une métaphore qui vaut ce qu'elle veut, mais... Et puis, c'était pas pour t'obliger à garder le dernier verset, mais c'est pour te dire, c'est pour rendre attentif au fait que, vous savez, des fois, on est agacé parce que le mal est personnifié dans la Bible, le diable, le Satan, etc. C'est parce que, en fait, tout ce qui est de ce côté un peu, défectueux, le mal, etc., on a l'impression que des fois c'est vivace. Et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu à la limite de maladies psychiques qui disent que voilà, c'est dans leur tête, ils entendent des voix, des choses comme ça. Ce n'est pas des gens qui sont complètement dans un délire psychiatrique, c'est aussi une façon d'exprimer le fait qu'ils sont dépendants. Ils n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls. Et là, c'est une façon de dire que si vous ne faites pas vous-même l'effort pour aider l'autre, ben l'autre reste avec ses problèmes. L'évangile est extrêmement subversif et dangereux, oui. Parce que ça démonte les mécanismes de la violence.
Oui.
Si on démonte les mécanismes de la violence, du coup, on sait aussi comment agir violemment.
Et voilà, c'est
ouais, bien sûr. Mais
là, justement, il s'adresse à qui, Jésus, quand il dit ça? Il s'adresse à ses disciples,
oui.
À une espèce de peuple de prêtres qui a pouvoir sur les autres, ou c'est pour chacun?
Eh bien, c'est le pour chacun, en fait, parce que, justement, il n'y a pas de limite... C'est vrai que c'est le groupe de ceux qui sont autour de lui, donc c'est plutôt le groupe des disciples, ce sont les familiers. Mais si vous mettez ça en parallèle avec le récit de la Genèse, c'est un récit de création en fait, et donc il y a une forme d'universalisation là-dedans, c'est-à-dire que l'esprit qui souffle là où il veut, il va au-delà de ce cercle. Il ne s'intéresse pas à est-ce que vous êtes prêtre, est-ce que vous êtes ministre, serviteur, etc. Donc, là, il y a la question...
Chez les catholiques, c'est l'instauration de la
constitution.
C'est pas encore constitué,
c'est ça.
Là, il y a des gens qui, au nom de l'esprit, peuvent faire ça.
Mais c'est le prêtre, la confession, il dit...
C'est encore constitué.
Oui, mais là, il y a une façon de tirer le texte pour le ramener à un corps constitué. Parce que si on voulait ramener ça à la question du prêtre, l'épître de Pierre parle de tous les baptisés comme de prêtres. Donc éventuellement, si on disait il y a une catégorie en particulier qui a cette capacité, on pourrait dire c'est la catégorie des baptisés, si vraiment on voulait trouver une limite. Donc, vous voyez, c'est déjà au-delà de la caricature. Là, le pardon n'est pas le fait d'une personne en particulier, hein, c'est tous les croyants. Et puis, vous voyez, il n'y a pas d'explication sur les modalités pratiques. Il y a un principe qui est posé, et puis ensuite, chacun se débrouille un peu. Hein.
Oui, mais c'est, moi, ce qui me gêne, c'est recevez l'Esprit Saint. Donc, c'est au nom du fait qu'on reçoit l'Esprit Saint qu'on peut remettre ou pas des péchés. Alors, ils leur sont retenus par qui? Ils seront remis par qui? Et ils seront retenus par qui?
Alors moi, tel que je le comprends, c'est à partir du moment où il y a une action d'un croyant à l'égard de quelqu'un qui est, disons, pécheur, on va prendre ce mot-là, il en est débarrassé de ce péché-là. Si jamais il n'y a pas d'action de quelqu'un en sa faveur, il reste empêtré dans cette situation-là.
On a une sacrée responsabilité.
C'est ce que je disais, c'est une éthique de la responsabilité. C'est pas...
Oui, mais alors on est coincé, on ne peut pas faire autrement.
Ben, si, vous pouvez très bien laisser les gens dans l'embarras.
Mais non.
Mais je suis d'accord avec vous. Bien sûr qu'on n'a pas le choix, mais c'est parce que vous faites un choix éthique qui s'appuie sur une vision... de vos devoirs.
Oh, je vais l'écrire, je fais un choix.
Mais oui.
Je crois que vraiment, il y a deux visions suivant le point de vue où on se passe, de l'offensé et de l'offenseur.
Oui.
Plaçons-nous du point de vue de l'offensé.
Oui.
Pour moi, au terme de toutes nos discussions, je retiens que seul le pardon accordé par l'offensé le rend libre, le libère du poids de la culpabilité, du poids de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Mmh. Et que la question du curseur entre ce qui est pardonnable et ce qui est impardonnable est une mauvaise question. Parce que où qu'on se place, il y aura toujours qu'un pardon, même si on place que ça reste à moins, il y aura toujours une partie qui ne sera pas pardonnée parce qu'on dira non, ça c'est impardonnable. Et on restera, l'offensé restera enchaîné, en quelque sorte. Cette question d'être complètement dégagé, elle passe par le pardon. Quelle que soit faute, cette une grande faute, une petite faute, quelque chose de pardonnable, pas pardonnable, etc. C'est subjectif.
Oui, tout à fait.
Ce qui n'est pas complet fait qu'on reste enchaîné au problème de l'autre.
On reste enchaîné au problème et puis on reste enchaîné en fait aux conséquences. C'est-à-dire que, mais ça on peut s'en rendre compte que quand on a été offenseur. C'est-à-dire que l'offenseur a tout à craindre. Il a tout simplement à craindre la vengeance de l'autre. C'est-à-dire que le pardon, c'est ce qui nous libère de l'option de la vengeance de l'autre. Et c'est une option forte.
Libère l'offensé, mais ne libère pas forcément, ne libère pas l'offenseur. Enfin, je veux dire, ça va dépendre comment il prend les choses. Hein.
Ah ouais. Ça peut être sain pour l'offenseur.
Non, mais si le.
Si
oui.
Il est pas conscient.
Mais s'il y a eu un acte de repentance, qu'il a pris conscience de ce qui s'est passé, etc.
C'est un autre problème.
Ah ouais. Mais vous voyez à quel point le nom. Enfin, vous savez, les violeurs d'enfants, en l'occurrence, les fameux pointeurs, ils ne sont pas tranquilles en prison. Hein.
Non, ils ne sont pas tranquilles, mais ils sont.
C'est eux qui ont tout à craindre, hein, plus que n'importe qui d'autre. Et le pardon, alors bon, il y en a qui sont vraiment des malades psychiques, mais le pardon, ça peut être vraiment une libération pour eux. Pour le cas de voilà, quelqu'un qui a dérapé, je ne sais quoi, et qui est conscient, qui est équilibré, etc., finalement. Parce qu'il sait que.
Le
lynchage, quoi.
L'offenseur accepte le pardon, en prenne d'ailleurs en tire une conséquence, quoi. Parce qu'il peut très bien refuser le pardon, il restera dans son problématique.
De même qu'il y a de vrais bourreaux qui ont pris conscience de ce qu'ils avaient fait, qui ont sincèrement demandé pardon aussi, Et même si après ils ont été exécutés, pour eux, ça a été une libération d'obtenir le pardon. Parce que la faute morale était incommensurable. Enfin, elle était à la hauteur de ce qu'ils avaient fait, en fait. Ouais. Je finis peut-être en vous lisant un petit peu de Yankelevitch, quand même. Et puis un peu de Paul Vergara, pour contrebalancer un peu. Bon, il nous reste 3 minutes, ça va aller. Je vous fais juste la citation avec peu de commentaires. Donc, pour vous dire à quel point lui, il met tout le monde dans le même sac, un crime qui fut perpétré au nom de la supériorité germanique engage la responsabilité nationale de tous les Allemands. Contestable, je trouve. Je devrais peut-être faire les commentaires. Hélas, du mécanicien des convois qui menait les déportés à la mort jusqu'au misérable bureaucrate qui tenait les bordereaux des victimes, il y a bien peu d'innocents parmi ces millions d'Allemands muets ou complices. Par contre, il sauve les élites. En dehors de ces élites, un peuple entier a été, de près ou de loin, associé à l'entreprise de la gigantesque extermination, un peuple unanimement groupé autour de son chef, qu'il avait maintes fois publicité avec frénésie, à qui il confirma tant de fois son adhésion enthousiaste, en qui il se reconnaissait. Vous voyez, il y a une forme de réécriture de l'histoire, parce que c'est faux, ça ne s'est pas passé de façon aussi unanime que ça. Mais, pour les besoins de la démonstration, chacun va un peu tirer. Qu'un peuple débonnaire ait pu devenir ce peuple de chiens enragés, ça fait mal, écoutez bien. Voilà un sujet inépuisable de perplexité, de stupéfaction. Je relis la phrase. Qu'un peuple débonnaire ait pu devenir ce peuple de chiens enragés, voilà un sujet inépuisable de perplexité, de stupéfaction. On nous reprochera de comparer ces malfaiteurs à des chiens. Je l'avoue en effet, la comparaison est injurieuse pour les chiens. Par contre, la suite est intéressante. Mais c'est un peu facile, c'est faux. Des chiens n'auraient pas inventé les fours crématoires, ni pensé à faire des piqûres de phénol dans le cœur des petits-enfants. Il dénonce, et ça je trouve que c'est vraiment très intéressant, il dénonce la fausse contrition, la fausse repentance, le repentir allemand, il s'appelle Stalingrad, il s'appelle la percée d'Avranches, il s'appelle la défaite. C'est un repentir militaire, et c'est aussi un repentir commercial au nom des affaires, un repentir diplomatique au nom de la raison d'État. La contrition n'y est pour rien. Autrement dit, c'est une forme de stratégie. Je reconnais avoir fauté, comme ça on va pouvoir relancer l'économie, etc. Mais si on n'avait pas perdu, on n'aurait pas reconnu qu'on avait fait une faute. Le pardon. Mais nous ont-ils jamais demandé pardon? Donc là, Yankelevitch parle au nom des Juifs. Et là, c'est la phrase la pire qui soit. La plus importante. Quand le coupable est gras, bien nourri, prospère, enrichi par le miracle économique, le pardon est une sinistre plaisanterie. Non, le pardon n'est pas fait pour les porcs ou pour les truies. Et là, c'est la phrase qui dit la pensée de Yankelevitch. Le pardon est mort dans les camps de la mort. À notre tour, nous disons aux Allemands, gardez vos indemnités, les crimes ne se monnaient pas. Il n'y a pas de dommage-intérêt qui puisse nous dédommager pour 6 millions de suppliciés. Il n'y a pas de réparation pour l'irréparable. Mais ça rejoint un peu ce que vous disiez sur l'inexcusable. Alors c'est en fait deux conférences. Celle-là, elle doit dater de 71. C'était alors imprescriptible parce qu'à un moment donné, on s'est dit oula, mais les années approchent et en fait, les crimes ne vont plus être condamnés. Et donc, il a écrit pour qu'il y ait de l'imprescriptible, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de délai au-delà duquel on finit les poursuites. Paul Vergara, il fait une prédication le 25 février 1945. Paul Vergara, c'est lui qui a œuvré pour sauver quelques enfants juifs ici à la clairière, juste devant les nations. Donc lui, il pourrait avoir un peu l'attitude de Yankelevitch, il était au cœur de l'affaire. Le premier résultat, le premier fruit du refus du pardon, au-delà d'une certaine limite, c'est l'endurcissement du cœur. Quand nous cessons de pardonner, et plus encore, quand nous nous faisons un devoir de ne pas dépasser une mesure fixe, l'esprit de pardon ne tarde pas de décroître en nous et finalement à s'éteindre tout à fait. C'est plus clair que ce que je vous disais, je suis d'accord. Certes, le pardon n'est pas toujours facile. Parfois même dans certaines circonstances, c'est ce qu'il peut y avoir de plus difficile et représenter un triomphe véritablement héroïque de l'esprit sur l'instinct naturel. C'est pour ça que l'esprit est nécessaire. Enfin, pour ça que c'est coordonné à l'esprit. Parce que c'est pas instinctif. Or, il ne fait pas de doute que l'enseignement de Jésus sur ce point est formel. D'homme à homme, le pardon est un devoir illimité pour le chrétien. Sans doute est-il au-dessus des forces de beaucoup d'être chrétien. Jésus n'a jamais prétendu être suivi par une foule nombreuse. Le chemin qu'il nous désigne est un chemin étroit qui ne sera jamais très encombré. Peut-être ne saurons-nous pas ce que c'est que d'aimer les hommes tant que nous n'aurons pas appris à pardonner. Quand nous avons réellement, sans réserve et de tout notre cœur, pardonné une offense, quand il n'y a plus de trace en nous de ressentiment et de rancune, nous sommes alors transportés dans une sphère heureuse qui nous prédispose à aimer tous les hommes, même ceux qui naguère ne nous paraissaient pas intéressants. Étant nous-mêmes bons et aimants, nous voyons la bonté et l'amour chez les autres, même chez ceux où il est difficile de les voir. Notre puissance de sympathie est infiniment accrue parce qu'en pardonnant, nous avons pénétré dans le domaine de l'infini et de l'éternel.
C'est ce qui est sur le site de l'oratoire.
La prédication est sur le site de l'oratoire, oui.
Oui, je l'ai lu ce matin, oui.
Ah ben voilà. Oui, elle est sur le site de l'oratoire.
Sur le site de
Paul Vergara, 25 février 45.
Dans les prédications anciennes.
Oui.
C'est d'ailleurs la dernière de la liste.
Possible. Ça vaut le coup, hein. Il y a eu de bons pasteurs à l'oratoire.
Sinon, c'est la surprise contre tout ce que tu veux. Il y a un pays que la bombe atomique.
Non, pas son style.
Non, c'est qu'en fait, il est parti du fait que. C'est qu'au départ, il part de l'imprescriptible. Mais par ailleurs, il a écrit des choses sur le pardon qui sont tout à fait belles et tout à fait justes. Simplement, voilà, il a été embarqué dans un risque. Et ben, il a exagéré. Il a été injuste au regard de l'histoire. Mais moyennant quoi, le crime contre l'humanité, maintenant, est imprescriptible. Et voilà, peut-être que c'était un mal nécessaire, en quelque sorte. Ça a été la journée des téléphones, hein.